Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce 13e podcast qui se déroulera en effectif réduit. Effectivement, je suis accompagné aujourd'hui de Mordren et de Tyran.
Salut.
Bonjour. Le Tyran, s'il te plaît, comme d'habitude. Merci.
Le Tyran, ça fait longtemps que tu m'avais pas fait chier avec ça, disons.
Ouais. Donc,
on va commencer comme d'habitude avec de l'actualité. Alors, aujourd'hui, au programme, je fais rapidement le sommaire avant de commencer. On parlera de PlanetSide 2, de Crysis 1 qui sera sur console, de Kinect et la formidable reconnaissance vocale de Minecraft du PSN Pass. Une géniale invention, mais on commence d'abord avec PlanetSide 2 présenté par Monsieur Le Tyran.
Alors, bonjour messieurs, dames. Le PlanetSide, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle à nos auditeurs, c'est un extraordinaire MMO-FPS sorti en 2003, le premier donc. Et il y a quelques jours là, donc on a eu l'annonce de la suite tant attendue. Alors, quoi de neuf, vous me direz sur cette suite?
Mais Tyran, quoi de neuf sur cette suite?
Merci Michael
quelle réactivité
pour cette transition. Bon, déjà dissipons tout de suite la malentendu parce que on a vu quelques chouineuses sur les forums dire oui c'est instancié, oui il y a pas beaucoup de monde sur les maps et tout, c'est naze, franchement on a rien vu sur le trailer mais on critique quand même, tu vois, parce qu'il faut critiquer.
Mais c'est des PCistes, c'est normal, hein, écoute.
Bim.
Ouais.
Allez.
Donc non, ce n'est pas instancié, messieurs dames. Ça a été dit et redit par les gens de Sony Online Entertainment. PlanetSide 2 sera un vrai MMORPG, zéro instance garantie, de vrais environnements, etc. Donc non, ce ne sera pas un jeu instancié. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme élément notable d'annoncer? Parce qu'on a quand même eu 2-3 éléments.
Nouvelles features.
Des nouvelles features.
Oh yeah.
Donc comme dans n'importe quel MMO, j'ai envie de dire, il y aura des arbres de compétences. Mais là où dans la plupart des MMO, ces arbres de compétences sont limités aux personnages, dans PlanetSide, tu auras en plus des arbres de compétences pour chaque arme, chaque armure, chaque véhicule.
Oh, c'est un truc de ouf.
Donc, ça veut dire que niveau customisation, c'est assez prometteur, quoi. C'est, par exemple, sur les armes, tu pourras ajouter un viseur, ou sur un véhicule, tu pourras ajouter une tourelle anti-aérienne, plein de trucs comme ça, tu vois. En plus, on a annoncé donc un système d'évolution des compétences à la Hive Online. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourrez lancer l'apprentissage d'une compétence, vous déconnectez du jeu, et pendant ce temps, la compétence continuera d'être apprise par le personnage. Sachant que, petite nuance par rapport à Hive Online, sur Hive Online, ta compétence ne s'apprend pas plus vite quand tu seras connecté, alors que sur PlanetSide, si. Si tu joues, l'apprentissage se fera plus vite. Donc quand même, léger avantage à ceux qui jouent. Mais je veux dire, c'est déjà mieux que les systèmes classiques où il faut fermer pendant des heures pour faire évoluer sa compétence, quoi.
C'est sûr.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a un système de classe. Donc, quand dans n'importe quel FPS, finalement, mais il faut savoir que dans PlanetSide 1, il n'y avait pas de vrai système de classe. Donc là, on aura un vrai système de classe sur lequel on pourra switcher à chaque fois qu'on mourra. Donc, pas besoin de se créer 36 000 personnages. Du moment qu'on aura débloqué la classe, on pourra switcher d'une classe à l'autre.
Donc, sans frais, hein.
Sans frais. Mmh. Enfin, sinon le frais d'apprentissage, le temps d'apprentissage de la classe, quoi. En tout cas, de ce qu'on a vu, c'est vraiment prometteur. Et c'est pas fini, hein. Faut savoir qu'en plus, certaines compétences débloqueront des éléments assez spécifiques du gameplay. Genre, pouvoir créer des missions pour notre faction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir dire à un moment donné, bon, moi j'ai besoin de quelqu'un pour aller attaquer cette base, et pour ça, j'ai besoin de tant d'AG, tant de médics, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ce qui est vraiment est très pratique, je trouve. Et sachant qu'en plus, contrairement à PlanetSide 1, on pourra capturer n'importe quelle parcelle de territoire à n'importe quelle heure. Ça veut dire que si vous voulez aller... Parce que dans PlanetSide, en fait, il y avait un temps, si tu veux, de une certaine période où tu pouvais pas aller capturer les bases adverses, en fait. Et là, tu peux aller capturer une base qui, mettons, est derrière la ligne de front. Sauf qu'il y a une contrainte à ça, c'est que si le territoire que tu veux capturer n'est pas adjacent au territoire de ta faction, tu mettras plus de temps à capturer. Et inversement, ça veut dire que si les mecs en face vous attaquent, eh ben, eux, il leur faudra genre, tu vois, 30 minutes pour le capturer, là où il t'aura fallu plusieurs heures pour capturer le territoire à ta faction, quoi.
D'accord.
Donc c'est, ça veut dire que tu peux le faire, mais il y a la défense annonce compliquée parce que du coup, les adversaires en, en face ont des avantages vu qu'ils encerclent ton territoire, quoi.
Ça permet d'avoir des lignes de front plus posées, j'ai envie de dire, non?
Voilà. Donc c'est un bon compromis, je trouve, parce que c'est vrai que dans le premier c'était pas très réaliste, tu vois, le fait de pas pouvoir capturer un territoire comme ça parce qu'il y avait un mec qui avait décidé sur une limite de code que non, tu pouvais pas, c'était assez chiant. Et sinon, dernière précision, mais c'est la plus marketing qu'autre chose, je pense, c'est qu'ils ont annoncé des milliers de joueurs qui pourront s'affronter sur les serveurs. Bon, moi je dirais plusieurs centaines, ça sera déjà pas mal.
Ouais,
ce qui était le cas sur le premier. Hein.
Ce qui ne servira à rien de toute façon, des milliers de joueurs, jamais les 1000 joueurs se rencontreront d'un
coup. Même, j'ai envie de dire, déjà plusieurs centaines sur le premier, c'était vraiment le bordel sur les grosses batailles. Donc c'est pas non plus la peine. Ouais. Les grosses batailles sont bien, parce que vraiment c'est à fond dedans, quoi. C'est la guerre, tu vois, t'es à fond dedans. Mais c'est pas non plus la peine d'en rajouter... Je veux dire, au bout d'un moment, il y a une masse critique où ça ne sert plus à rien d'avoir des joueurs supplémentaires. Quoi. Donc,
Et question à la con, c'est prévu pour quand? Je ne sais pas si tu l'as dit ou pas.
Pour l'instant, on n'a pas plus de précision sur pour quand c'est prévu, pour qui que quoi qu'est-ce. D'ailleurs, il y a eu assez peu d'infos. Donc bon, on attend de voir. Moi, de ce que j'ai vu, ça s'annonce prometteur. En espérant qu'ils tiennent leur promesse et que Sony ne va pas saboter PlayStation 2 comme ils ont saboté le premier. Parce qu'ils ont fait quelques conneries dont je parlerai pas ici sur le premier, mais ceux qui ont joué au premier sauront de quoi je parle.
Ouais. En tout cas, ça met l'eau à la bouche. Hein. Moi, je pense que je serai sûrement un futur possesseur de PlayStation 2. Et c'est prévu sur console, PC, tout?
Alors... Là, il y a eu un petit micmac, c'est-à-dire que il y a certains sites au début qui ont dit que on leur avait dit entre guillemets qu'il y aurait du cross-platform avec la PS3. Alors là, tu vois, il y a eu des joueurs PC qui ont fait des tentatives de suicide parce que bon, forcément,
c'est des chieurs.
Non, mais attends, on va pas jouer avec des gens en pâte. C'est pas
possible. Ça peut se comprendre.
C'est du frag facile.
Mais ensuite, il y a eu donc une interview de nos confrères de Rock Paper Shotgun, et je leur fais relativement confiance parce qu'ils sont assez fiables en général, où un responsable leur a dit que non, c'était une exclusivité PC assurée. Sachant, dernière précision, mais ça c'est au rang d'études, ils sont beaucoup inspirés d'Eve Online, donc il devrait y avoir normalement un système de ressources, c'est-à-dire que sur le territoire que vous allez capturer, il y aura certaines ressources disponibles. Donc ça jouera directement sur votre faction, quoi. Donc plus vous aurez de territoire, plus vous aurez de ressources disponibles, plus vous pourrez construire d'armes, etc. Donc très intéressant, ça forcera les joueurs à capturer certaines zones plutôt que d'autres. Et en plus, ils sont en train d'étudier, je dis bien étudier, la possibilité de faire un serveur unique à la EVE Online.
Ah oui.
Oh là.
C'est assez ambitieux, hein, donc.
Mais comment ce serait possible s'ils disent qu'ils veulent faire plusieurs centaines voire des milliers de personnes par serveur?
Bah, ils peuvent pas aller
beaucoup loin, si.
Mais EVE Online c'est un univers qui est plutôt vide, ça faut le dire. Hein. C'est
oui,
l'espace.
C'est vrai. C'est pour ça que bon, j'attends de voir.
Ouais.
Sachant que là, apparemment, ils ont l'air de dire qu'au contrairement au premier, ils ont vraiment conçu le moteur pour un MMO, quoi. Donc bon. On verra bien, moi de toute façon c'est pas non plus le plus important, mais c'est vrai que ça serait pas mal quand même, quoi. Un serveur unique, franchement s'ils arrivent à un serveur unique, ça reste fluide, tu vois, sur les grosses batailles, chapeau bas, quoi.
C'est clair.
J'imagine même pas le PC qu'il faudra avoir. Mais bon, on parlait de console et de PC, alors justement, là encore une fois, les PCistes vont rager ou bien rigoler, au choix. Il y a des rumeurs sur le fait que Crysis, premier du nom, pourrait être adapté sur 360 et PS3. Tyran, toi, je sais que tu auras un avis pertinent là-dessus. Lance-toi.
Bah, je suis sceptique. Parce que le problème avec Crysis 1, de toute façon, on l'a bien vu avec Crysis 2, pourquoi Crysis 2, c'est des couloirs? Il y a juste à poser cette question, tu vois.
Et après,
admettons, tu vois, qu'ils arrivent à faire un environnement ouvert, etc. Ok, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils vont gérer la physique de Crysis 1. Parce que... Le moteur qui gère tout ce que tu peux faire avec les armes quand tu tires dessus, etc. Enfin, c'est un moteur physique de fou, celui du premier.
Ouais, rien que pour vous expliquer rapidement, il y a un palmier, on peut découper le palmier en plein de petits morceaux, et après on peut s'amuser à faire du bowling avec tous les petits morceaux. C'est peut-être con, mais ça explique à quel point le moteur est puissant.
Autant faire un truc ouvert, ça me paraît possible, tu vois. Mais encore, je pense qu'il va falloir sérieusement, genre la distance de vue, tu vois, ils vont la réduire, mais drastiquement.
Ce sera Crysis en mode N64, toujours du brouillard.
Et en plus, le moteur physique, mais ils vont faire quoi? Ils vont le modifier? Ils vont le virer carrément? Ils vont faire quoi avec? Parce que moi, très honnêtement, je pense que ouvert plus moteur physique, ça va pas être possible, quoi. Il va y avoir un moment, il va falloir faire un choix, quoi.
Si je me trompe pas, Crysis 1 déjà sur PC demande plus que le deuxième ou je me trompe?
Ça, je t'avoue, j'ai pas fait des tests.
Il me semble,
je
hein.
Je pense.
Donc bon.
Mais dans tous les cas, en plus, il y a toutes les histoires d'IA, enfin d'intelligence artificielle. Voilà quoi, c'est. Ça me paraît complexe, quoi. Bon.
Après, ça si... et The Witcher 2, on peut dire que c'est les grands paris de conversion si ça se fait. Parce que The Witcher 2, on est sûr.
The Witcher 2, ça me paraît plus possible déjà, tu vois. Parce que The Witcher 2, c'est un environnement fermé, mine de rien. Bon, c'est pas. Disons que c'est un environnement semi-ouvert. Parce que c'est un peu à la Baldur's Gate, tu veux.
C'est des zones
de jeu, en fait. C'est des gros zones de jeu, sans temps de chargement. Même quand tu rentres dans les maisons, t'as un écran de transition noir, mais genre il dure même pas une demi-seconde, quoi. Donc c'est même pas chargement, quoi.
Donc sur console, une dizaine de secondes peut-être, hein, on sait jamais. Des fois à ce niveau, c'est là où on se fait avoir. Hein.
Mais The Witcher encore, ça me paraît faisable, tu vois, en baissant la qualité graphique de certains trucs et tout, ça me paraît possible. Mais Crysis 1, franchement, c'est des environnements ouverts, super beau, enfin, bref quoi, c'est compliqué.
Et surtout qu'il est super mal optimisé aussi, ça, Warhead déjà était mieux optimisé, donc à voir. Pour l'instant, on parle que de Crysis 1. Donc, pour rester sur les consoles et les choses formidables, on va parler de Kinect et la reconnaissance vocale tant attendue par tous les gamers qui ont acheté une Xbox 360 rien que pour ça, même s'ils l'ont acheté avant l'annonce de Kinect, tu vois, ils avaient prévu ça. Bref, la reconnaissance vocale en France devrait arriver en octobre, novembre, en fait, vers cette fin d'année à peu près.
Donc pour l'anniversaire de Kinect, en fait.
Voilà, alors si ça c'est pas un beau cadeau, franchement, vu que toutes les compatibilités se basent que sur la reconnaissance vocale, apparemment.
Bah en fait, j'ai envie de dire, il était temps, quoi, parce que...
C'était censé arriver quelques mois après, quand même. Hein.
Mais voilà, pourquoi ils ont pas fait un micro, en fait? Parce que, je sais pas, toutes les compatibilités, il aurait suffi d'un micro, quoi.
Mais c'est tu peux pas tester, c'est parce que t'es pas intéressé par Disney, c'est pour ça.
J'avoue.
Mais bon, c'est vrai, bon, enfin, quoi, c'est... Par contre, j'ai pas vu si l'espèce d'interface à la main et la voix va marcher, là, mais bon... franchement, il était temps, parce que, vu depuis, on attendait ça, quoi.
Bah ouais, moi j'attendais avec impatience de pouvoir dire « Kinect, lecture, Kinect, pause !» Franchement, je veux dire, si vous n'avez pas d'Xbox 360, si vous avez une Xbox 360,
ce que je veux dire, c'est que on nous annonçait à chaque fois des features pour Kinect et tout. Mm-hmm. Bon, après, qu'on soit, je parle pas de l'intérêt du truc en soi. Hein.
J'ai hâte de.
Je dis que en France, c'est bien beau d'annoncer des trucs, mais Kinect, on n'avait pas les fonctionnalités, donc on s'en foutait un peu, quoi. Bon. Je dis pas que maintenant je m'en fous moi, personnellement. Mais c'est vrai que pour Monsieur Tout-le-Monde, déjà, c'est une bonne nouvelle, quoi.
Mais c'est vrai que l'E3 de Microsoft a été relativement Kinect-centré, en fait. Et il y avait pas mal de reconnaissance vocale. Et nous, quand on parlait de la reconnaissance vocale, on se disait, oui, mais de toute façon, ça sert à quoi? Nous, on l'a pas encore. Donc il fallait de toute façon que Microsoft fasse quelque chose là-dessus, parce que... C'est pas possible d'annoncer des choses à l'E3 et de faire que ce soit juste américain, quoi. C'est pas, juste pas possible. Donc, bon, enfin, quoi.
C'est un grand soulagement.
It's about time.
Exactement.
Voilà. Donc, si vous le permettez, on va changer de sujet. Enfin, pas tellement, parce que c'est un jeu qui va bientôt être porté sur Xbox 360 et qui aura une compatibilité Kinect. Il s'agit de Minecraft, un formidable petit jeu. Et c'est Mordren qui va nous en parler, si je ne me trompe pas.
Oui, pourquoi pas. En fait, on a juste appris qu'il y avait plus de 10 millions d'utilisateurs de Minecraft depuis sa sortie.
Ce qui fait plus que le nombre d'habitants de la Suède, précisément.
Exactement, un joli fun fact. Et donc 10 millions d'utilisateurs, c'est quand même énorme. Bon, alors une utilisateur ne veut pas
c'est
dire
utilisateur, hein, ouais. C'est pas payant.
Exactement, voilà. Ça ne veut pas dire des gens qui l'ont acheté. Des gens alors qui l'ont acheté, c'est un tout petit peu moins, un tout petit peu moins de 3 millions de personnes.
Donc 2,746,053 ventes.
Merci de
précis
tyran.
À l'info.
Ah, je crois que le 53 aura changé. Hein.
Ouais, ça, oui, ça change des tout. Chances.
Oui, sachant que bon, au niveau des dernières 24 heures, ils en ont vendu 10 000 déjà de Minecraft. Donc, je pense qu'on se fait pas de soucis au niveau des coûts de développement de Minecraft.
Le machin, il a coûté ouais, il a coûté beaucoup d'heures, mais il a dû coûter pas super cher.
Là, Marcus Persson, je crois, ouais. Il a une piscine en or chez lui. C'est non massif. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Ce jeu ne cesse de m'étonner au niveau en tout cas du phénomène quoi c'est
enfin, en tout cas il mérite hein. C'est vraiment un bon petit jeu enfin même un bon gros jeu
oui, oui.
Ouais. C'est d'ailleurs on va pouvoir en profiter pour glisser un petit mot sur la prochaine mise à jour quand même parce que la mise à jour en point 8 il faut savoir donc qui est appelée l'aventure update. Pourquoi elle s'appelle comme ça? C'est parce que en gros il y a plein de ils vont rajouter plein d'éléments de gameplay en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnages non-joueurs avec qui auront leur village. On va avoir des donjons qui vont être générés aléatoirement. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les donjons 4-4 sur 4, c'était un peu tiep, quoi. Mais moi, c'est un peu le date que j'attends avec impatience, quoi. Parce que depuis que j'ai joué à Terraria, en fait, ben... Du coup, j'ai ça du mal à te mettre à Minecraft parce que dans Terraria, il y a un vrai aspect aventure en fait. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaisait dans Minecraft aussi. C'est pas tellement côté construction qui est intéressant. Hein. Moi, j'aime beaucoup le côté construction et ça fait partie intégrante du jeu. Et je pense que si ça nous plaît pas, autant passer à autre chose. Quoi. Ouais,
mais ça coûte moins cher qu'une boîte de Lego.
Mais je trouvais que le côté aventure était sous-exploité, qu'il y avait un potentiel à exploiter, et que enfin peut-être avec cette mise à jour, on va voir quelque chose de consistant, quoi.
Oui, et en plus pour les modeurs, avoir des personnages non joueurs comme ça, ça doit être juste du pain béni, quoi. Et les gens qui vont créer des cartes, ils vont être aux anges, à mon avis.
Ah ben, on va se taper des niveaux Mario, on va se taper tous les classiques, hein, je pense. Bah
déjà qu'on a du Zelda, là, qui est déjà bien, bien avancé, je pense qu'avec des villages de personnages non joueurs,
Des donjons.
Ouais. Mais ça va le faire, je le pense.
Moi, j'ai hâte de pouvoir cramer des villages. Ça
va donc, on enchaîne. Faut pas rester là-dessus. Fou. Donc, on va parler d'un truc qui nous met tous en joie, que tous les gamers adorent, et c'est le jeu du PSN Pass, à l'instar de EA. Oui, c'est EA qui a mis ça en place.
Oui, oui.
Pour les jeux d'occasion, vous n'avez pas accès au online, à moins de repayer une petite carte qui vaut la modique somme de 10 euros chez EA, en tout cas.
Non, c'est pas le online, hein, c'est le contenu. Moi, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est le contenu.
Ah, pardon.
Supplémentaire en fait il y a un contenu supplémentaire qui n'est pas disponible. Moi, c'est ce que j'ai compris,
autant hein. Pour moi donc maintenant c'est du DLC parce que... à moitié gratuit.
Attends. Non. Parce que non, si c'est le online c'est beaucoup plus grave que ce que fait oui. Hier non, parce que c'est que le contenu supplémentaire.
Parfois ils ont fait des patchs multijoueurs.
Pour le PSN Pass je confirme que c'est un code d'accès unique pour le multijoueur du jeu.
Ah ouais,
le multijoueur.
Donc, ouais, en fait, c'est beaucoup plus grave. Non, mais je corrige. C'est beaucoup plus grave que ce que fait Electronic Arts.
Voilà. Non, EA ont fait du. Je sais plus pour quel jeu. Je crois qu'ils ont fait pareil pour le multi. Hein.
Donc, il faudra que vous me dites lequel parce que je les boycotte parce que c'est grave.
Donc on va juste resituer en fait. Le PSN Pass va être mis en place avec Resistance 3, donc il sort à la fin de l'année là. Et donc pour toute personne qui aura acheté le jeu d'occasion. Il devra acheter pour jouer au multijoueur un code d'accès unique pour jouer online à Resistance 3. Donc ça, c'est vraiment le truc qui nous fait enrager. Hein. Donc,
les jeux Sony,
j'avais pas du tout compris ça. Donc oui. Vous me pardonnerez, chers téléspectateurs, je vais être assez grossier. On nous prend vraiment pour des cons. Enfin, mais je veux dire, c'est scandaleux, quoi. Tu payes un jeu.
D'un côté, moi, je pense aux joueurs, mais il y a aussi des personnes à qui ça va faire mal. C'est les revendeurs. Type, bah, oui, que ce soit Micromania ou même les petits magasins, tu vois, les petits magasins de passionnés qui, eux, sont pas des voleurs, il faut le dire, et qui se font pas d'argent tant que ça sur le neuf, ils se font de l'argent sur l'occasion. Et là, ça va leur faire un putain de gros coup. Et ça, ça va généraliser, hein. On crache sur Sony, mais croyez-moi, ce sera bientôt Nintendo, ce sera bientôt Microsoft. Ça va généraliser, à mon avis.
Après, je vais juste dire une chose, quand même, parce que c'est bien beau de taper sur Electronic Arts et compagnie, mais j'aimerais dire quelque chose aux gens. S'il y a quelque chose qui vous scandalise, n'achetez pas les jeux. Non, mais c'est important. C'est important. Moi, je suis désolé. Je pense que il faut, quand on est joueur et qu'on a des trucs qui ne nous plaisent pas, vous voulez faire passer un message. Il y a un message qui est très simple. Ça s'appelle le portefeuille. Et c'est très simple. Arrêtez d'acheter les jeux.
Alors, tu as une petite question. Si Battlefield 3 a ce genre de code, est-ce que tu le boycottes ?
Ah, moi, je boycotte. Je veux dire, il y a des jeux que j'attendais, que j'ai boycotté. Hein. Parce que il était hors de question, genre Ubisoft Assassin's Creed Brotherhood, moi je l'attendais sur PC grave, mais ils ont mis des DRM de fou dessus, mais j'ai dit non, il est pas question que je paye pour un DRM. Après bon, chacun, je sais que bon, chacun a sa volonté et tout, mais moi c'est clair, net et précis, même si j'attends un jeu, je veux dire finalement des jeux à faire j'en ai plein. Et je suis pas à un jeu près, quoi. Et s'il faut boycotter un jeu pour faire passer des messages, et ben je boycotterai un jeu, quoi. Et là, ça, bon, Résistance 3, c'est Résistance 3.
Ouais, pour le moment,
ça va.
En l'occurrence, Résistance 3, je m'en bats les couilles, mais, s'ils font ça sur un autre jeu, voilà,
mais,
quoi.
Oui, mais je pense que c'est le coup d'essai, hein.
Fait par Sony, non? C'est ça?
Oui, mais de toute façon, on peut imaginer que ça ira sur autre chose. Hein. Oui, Uncharted 3, ça m'étonnerait pas qu'il y ait aussi un PSN Pass.
Tais-toi.
Mais oui, non, mais c'est vrai, Uncharted 3, ils veulent absolument faire un mode multijoueur qui rivalise avec tous les autres. Bah oui, bah PSN Pass, hein, je suis désolé, mais ça, on va pas y échapper. Sauf s'il se passe vraiment quelque chose sur Resistance 3.
Alors moi, qui suis d'origine un joueur Sony, je vais le dire, le PSN, c'est gratuit. Mais tu rajoutes le PSN Plus, tu rajoutes le PSN Pass, tu vois, ils sont en train de nous entuber à ce niveau.
Non mais le PSN Plus, à la limite, bon, je veux dire, c'est
oui, non,
il y a tellement rien sur PSN
mais
Plus.
C'est pour le principe, quoi, c'est pour le principe, ils avaient dit tout était gratuit. Quand ils ont lancé la PS3, ils diront, il n'y aura jamais de choses payantes.
Alors, c'est gratuit le multijoueur, si t'achètes neuf. Voilà, c'est ça qu'on te dit. Achète les jeux à 70€.
Donc bientôt t'auras, c'est gratuit si t'achètes la version collector à 150€ avec un code spécial. Ça va passer comme ça bientôt. Non mais franchement, faut arrêter.
Et le problème c'est que là, bon, là c'est Sony, mais imagine Microsoft, si Microsoft un jour se met à faire ça, mais
eux, ça passera moins bien avec l'abonnement, je pense déjà.
Tu payes déjà l'abonnement online, voilà quoi, c'est faut espérer qu'ils vont pas faire ça chez Microsoft, hein, parce que sinon je plains les joueurs 360. Hein,
alors parce que, ça moi, à la rigueur, si Microsoft se met à faire ça et dit pour ceux qui payent le gold, bah y a pas de paiement, y a pas de code à acheter puisque vous payez déjà le gold. À la rigueur,
de toute façon, les autres peuvent pas, ils s'en foutent d'avoir le code ou pas, ceux qui sont pas gold.
Oui,
quoi qu'il arrive, ils joueront pas.
Ils jouent pas donc.
Mais tu vois, il devrait pas y avoir double abonnement. Enfin, c'est absolument aberrant, quoi.
Tu repasses deux fois à la caisse. Enfin,
Non mais oui, là c'est vraiment les gamers sont des vaches à lait. Hein.
Non mais en plus moi je pense que là ils cherchent à tout prix à saboter le marché de l'occasion.
Oui.
Et très sincèrement je suis persuadé qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied là.
Oui.
Parce que les mecs qui revendent leurs jeux de cases là, c'est les mecs qui achètent les jeux neufs. Hein. Et quand ils auront plus de pognon, ils vont faire quoi? Non mais faut dire ce qui est. Si automatiquement tu fais baisser le marché de l'occasion, les mecs ils ont moins de pognon pour leur jeu. Et après ils vont faire quoi? Ils vont dire ouais c'est la faute du piratage, c'est ça? Non mais comme d'hab quoi, tu vois, c'est ça va être ça quoi. C'est ouais c'est les méchants pirates, on vend moins de jeux, boubou, c'est les méchants pirates qui piratent nos jeux quoi. Enfin ça m'exaspère ce genre d'attitude parce que ils se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se s'aborder eux-mêmes quoi.
Non, c'est abusé. Enfin,
on dira pas chapeau pour cette manœuvre plus que méprisable.
Mais à noter quand même qu'il y a pas mal de gens qui réagissent là-dessus, notamment des développeurs qui, eux, détestent absolument cette décision, notamment Insomniac Games, donc qui est pas mal au niveau des licences de Sony.
Ratchet et... c'est eux qui font résistance.
Bah ouais, mais a priori, ça les fait réagir et donc ils... A priori, ça a le temps de bouger encore. Hein.
En même temps, tu te mets à la place des développeurs, ça peut se comprendre, hein, parce qu'une décision comme ça, ça peut jouer sur la vente des jeux. Hein. C'est que les titres Sony, par contre.
Oui. Bah pour le moment. Mais pour le moment, ils parlent que de Resistance 3, donc.
Oui, pour le moment, ils parlent même pas des autres X.
Je vois pas pourquoi Sony mettrait un PSN Pass sur des jeux qui ne sont pas exclusifs à sa console. Enfin, je sais pas, mais ça me paraît vite.
Bah après, je veux dire, Sony ne peut pas imposer sa volonté aux éditeurs non plus. Faut voir ça. Après, la question, mais je suis assez pessimiste là-dessus parce qu'après, je pense que les gros éditeurs sont à peu près sur la même longueur d'onde que Sony. Leur rêve depuis des années, c'est de s'aborder le marché de l'occasion. Il y a pas de raison. T'as Sony qui arrive avec un truc. Ils vont regarder ça. À mon avis, ils vont regarder ça avec intérêt, quoi.
Et vu ce que veut Bobby Kotick, lui qui voulait.
Ah oui, non, mais attention, Bobby Kotick, lui, il veut un abonnement. Hein.
Oui, il avait annoncé le PDG d'Activision, donc Activision, c'est quoi? C'est Call of Duty, notamment. Il avait annoncé qu'il voulait carrément un abonnement. Donc, s'il y a bien un éditeur qui se pliera, mais alors, avec plaisir à ce genre de petite merde... Bien,
vendu!
Voilà, c'est Activision. Hein. Enfin bon, je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet. Hein. Il n'y a rien d'autre à rajouter.
Pour résumer, un dangereux précédent. Voilà.
Ouais. Ouais. Chaque joueur sera le condamné à sa manière, que vous boycottez les jeux comme tyran ou que vous gueuliez sans rien faire et continuez à faire votre pigeon comme moi. Ça, j'avoue, moi, ça m'empêchera pas d'acheter les jeux. Je suis faible, c'est comme ça, mais bon. Je n'achète pas les DLC de Call of Duty non plus qui sont hors de prix, mais je m'écarte du sujet. Donc, voilà. Donc, on va maintenant passer au jeu. On va commencer avec un jeu au nom fort étrange, il s'agit de Solato Robo qui sera présenté par Tyran.
Alors, Solato Robo, un jeu, on va dire, comment présenter ça? C'est pas vraiment RPG, c'est plus un jeu d'action-aventure avec des éléments RPG, on va dire, sur DS. Et Solato Robo, qu'est-ce que c'est? Parce que, mine de rien, c'était un jeu très attendu. Pourquoi? Parce que c'est la suite d'un jeu qui a une aura tout particulière pour les joueurs de PlayStation 1. Tel concerto. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent?
Ça me dit rien du tout.
Bande d'incultes. Rien du tout. Bande d'incultes. Bon, tel concerto, pour présenter vite fait, c'est un jeu avec une ambiance à la Skies of Arcadia, avec des îles volantes, etc. Sauf que les personnages, en gros, c'était des chiens, des chats. Enfin, tu vois un peu à la je sais pas s'il y en a qui connaissent la vieille série Sherlock Holmes.
Oui. Mm-hmm.
Donc un peu comme ça, et une ambiance très bon enfant, vraiment dépaysante, qui avait vraiment marqué à l'époque de la PlayStation 1. Alors le concept du jeu, en grosso modo, c'était un mélange de shoot avec le robot, parce qu'on contrôlait un robot en fait, avec des phases de plateforme, des phases d'aventure, enfin bref, un melting pot, tu vois, très sympa. C'est un jeu qui a marqué son époque, quoi, très clairement. Et donc là, nous avons Solato Robo, sa suite. Suite ou plus ou moins, parce que c'est plus une suite spirituelle, mais ça se passe dans le même univers. Parce que, donc, le premier se déroulait dans le royaume de Prairie, et là, on se retrouve, donc, dans le même univers, mais dans la République de Shepherd. Et on se dirige à un personnage qui s'appelle Red, qui est un chasseur, et qui donc, par le fil du scénario, va se retrouver, comme d'habitude, dans une histoire où il va sauver le monde. Bon. Rien d'original, je vous le dis tout de suite, hein, le scénario, rien de fondamentalement très original là-dedans. Sauf que Solato Robo fait partie de ces jeux historiques, tu vois, à la Grandia, à la Skies of Arcadia, de ces jeux d'aventure avec un grand A, où tu vas visiter des continents très différents, avec des décors très très différents, enfin un dépaysement permanent. Vraiment quelque chose de très imaginatif, d'immersif. Et bon... On va être direct, c'est comme pour Tel Concerto, les mécaniques de gameplay sont assez basiques, parce que bon, c'est un jeu qui est fait pour les enfants, il faut dire s'il est. C'est un jeu qui est fait pour les enfants, mais qui peut être joué par des adultes.
Les nostalgiques, en l'occurrence, non?
Non, pas des nostalgiques.
C'est non, vraiment... mais vu qu'il était sorti sur PS1, les gens qui se sont fait l'opus sur PS1 quand ils étaient jeunes, peut-être revenir...
Ah oui, non, mais très clairement, surtout qu'en plus, au niveau de l'univers... Il faut savoir qu'on apprend, il y a quelques précisions au niveau du scénario qui éclaire un peu celui de Tel Concerto. Parce qu'on soupçonne en fait que les deux scénarios se déroulent en parallèle ou qu'au moins celui de Tel Concerto s'est déroulé légèrement avant. Parce qu'il y a des éléments qui correspondent et qui expliquent pas mal le scénario de Tel Concerto en fait. Alors, comme pour Tel Concerto, Solato Robo mélange plusieurs types de gameplay, à savoir qu'en fait vous allez avoir des phases de course, vous allez avoir des phases de vol libre, vous allez avoir des phases de baston, enfin vous allez avoir des énigmes, enfin bref, vous allez avoir plein de types de gameplay. Sauf que contrairement à Tel Concerto, qui lui était plus axé shoot dans ses phases de combat, Solato Robo, lui, est plus axé beat'em all. À savoir que le concept, c'est que tu vas choper tes ennemis. Donc au début, c'est basique. Tu chopes tes ennemis, tu les lances, point barre. Enfin, tu peux les lancer sur les autres ennemis, etc. pour faire des dégâts. Puis ensuite, plus le jeu va avancer, plus tu vas débloquer certaines compétences qui vont te permettre de faire des combos et tout. Mais bon, ça reste assez basique. Hein. Et ensuite, t'as des éléments du gameplay où tu vas pouvoir custom ton robot. Genre, t'as un système un peu à la Tetris sur ton robot. T'as des blocs, genre t'as un bloc de vitesse qui ressemble à une pièce de Tetris où tu vas devoir le placer sur un... Comment appeler ça ? Un plan, tu vois, où tu vas placer ton bloc de Tetris, en fait. D'accord. Et l'idée, c'est que tes blocs, il va falloir que tu les empiles d'une certaine manière pour les faire rentrer dedans, etc. Sachant qu'au départ, tu as un nombre d'emplacements limité et que tu vas devoir trouver ce qu'on appelle des cristaux qui vont permettre de débloquer ces des emplacements supplémentaires, en fait. D'accord. Parce que, bon, vous l'aurez compris, plus le bloc va apporter de bonus à ton robot, plus il va être gros, enfin imposant, puis il va être difficile à placer, etc., quoi. Et techniquement ensuite, le jeu est très joli. Je pense que c'est l'un des plus beaux jeux de la DS. Pour vous dire, c'est un mélange entre du pré-calculé, vous savez, sur les vieux Final Fantasy, mais du pré-calculé, mais du pré-calculé fait dessin en fait, tu vois. Ouais. Les personnages sont légèrement en cel-shading et tout, c'est vraiment très joli. Un petit reproche par contre, il faut savoir que à part le héros, tous les personnages sont sur un plan 2D. Je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. C'est peu comme sur les vieux jeux Nintendo 64, tu vois, où il y a, où par exemple Mario Kart, tu sais, les arbustes, ils étaient en 2D. Enfin, ils étaient
plats. Et ils tournaient au fur et à mesure pour tout le monde.
Alors, il faut savoir que dans Solato Robo, la caméra est fixe. Elle bouge, si tu veux, elle suit ton personnage, mais elle est sur un plan fixe. Donc les personnages sont placés de manière, tu vois, à ce que la 2D ne se voit pas trop. En général, franchement, la plupart du temps, 90% du temps, tu vois pas que les personnages sont en 2D, quoi. Parce que l'angle de caméra est tellement bien placé que tu vois pas tellement la différence entre ton personnage qui lui est en 3D et les personnages en 2D, quoi. Ce qui est bien. Par contre, il y a certaines parties du jeu où, genre, la caméra prend des angles vus du dessus, etc., où là tu vois carrément que ouais les personnages ils sont en 2D et ça saute aux yeux quoi. Ça c'est un petit reproche que j'ai à faire, c'est ça fait un peu tâche. Et aussi il y a des phases genre à un moment t'as un tournoi où c'est comme dans les jeux de tennis tu sais où t'as le public qui est en 2D où ça se voit trop. Là c'est pareil, t'as le public qui est en 2D, ça se voit beaucoup trop. Globalement quand même le jeu reste très joli. En plus bon même dans les villes où les décors sont généralement précalculés, t'as des décors en 3D. En général la transition est très bien faite. Donc tu la vois pas trop et franchement ça chapeau. Contrairement à Tel Concerto aussi, remarque très importante. Tel Concerto, en fait, t'avais une caméra qui suivait le personnage et c'était pas ça quoi. J'y ai rejoué récemment à Tel Concerto et ça manque clairement d'un second cycle analogique pour régler ta caméra et tout, parce qu'il faut savoir qu'en plus t'as des phases où t'es en vol libre avec un jetpack et dans Tel Concerto ça posait un vrai problème parce que tu voyais pas où t'allais, etc. Bon, dans Solato Robot t'as encore ces phases de vol, mais ça va mieux parce que évidemment, bon, toujours pas de son stick analogique, hein, malheureusement, DS oblige, ouais. Mais tu as le second écran avec une minimap. Et ça en change tout. Parce que quand tu as la minimap, tu vois où sont les îles par rapport à ton personnage, et du coup, tu as moins besoin de regarder la caméra, en fait.
Ouais.
Là où dans le premier, c'était une horreur par moment, parce que tu pouvais pas régler la caméra. En plus, dans Tel Concerto, il y avait pas mal de phases de plateforme, et c'était vachement pénible, quoi. Parce que...
Bah oui, caméra.
Caméra quoi, et surtout le dernier boss, enfin le dernier niveau, c'était c'était une horreur, c'était en full 3D, t'avais des plateformes partout qui circulaient, enfin c'était une horreur à jouer avec la caméra,
ouais.
C'était vachement pénible. Et là, bon, le reproche que j'aurais à faire, c'est que là du coup ils ont choisi un peu la solution de facilité, c'est que des phases de plateforme dans Solato Robot, il y en a plus tellement quoi.
Ah oui, d'accord.
Ça c'est vraiment dommage, parce que l'une des qualités de Tel Concerto, c'était que mine de rien, il y avait certaines phases de plateforme qui étaient vraiment sympathiques. Mmh. Et je trouve regrettable qu'ils aient pas développé le concept, quoi.
Mmh. Alors question, vu que c'est sur DS, on peut s'imaginer qu'il y aura utilisation du stylet. Est-ce que
pas du tout.
Ah ouais.
Même pas c'est un jeu qui est 100% conçu pour être joué enfin comme un jeu classique, tu vois.
D'accord.
Et bon, moi personnellement, je t'avoue que de base, je trouve que bon, ils auraient peut-être dû mettre un ou deux trucs sur l'écran tactile, mais l'utilisation du stylet franchement, tel qu'il est le gameplay, j'en vois pas l'intérêt en fait.
Okay.
Donc ça manque pas.
D'accord.
Ça manque pas du tout. Non, mais je vois pas ce qu'ils auraient fait avec le stylet de toute façon. C'était pas très utile dans le jeu tel quel. Après, bon, peut-être qu'ils auraient pu innover un peu aussi. Hein.
Ouais.
On peut toujours leur reprocher ça. Mais ça manque pas vraiment au jeu, quoi. Mmh. D'autres questions ?
Oui, tu disais que c'était plutôt facile comme jeu en termes de gameplay. Je voulais savoir, en fait, si c'était long, du coup, enfin si c'était raccourci en termes de
structure
et de durée de vie.
Alors, c'est l'une des qualités de Solato Robot par rapport à Tel Concerto. Il faut savoir que Tel Concerto, son gros défaut, son défaut number one, c'est que tu finissais en une grosse après-midi.
Ouais, d'accord.
Là, Solato Robot, j'ai dû faire à peu près toutes les quêtes disponibles. J'ai fini, j'ai bouclé le jeu avec toutes les quêtes qui pouvaient me tomber sous la main. J'ai fini en 25 heures.
Ah oui, quand même.
Ce qui est respectable. Hein,
je veux dire. C'est clair pour un, ouais.
Bah oui, quand on voit les jeux de nos jours.
Ouais.
Bon, surtout même, tu vois, dans le genre action RPG, etc., les jeux ils font pas tellement plus, hein, je veux dire, c'est pas c'est standard pour par rapport à un premier c'est un plus, c'est standard par rapport au genre, quoi. Par contre, gros reproche par rapport, justement tu parles de la facilité du jeu, le reproche que je ferais, c'est pas tant par rapport à la facilité du jeu en lui-même, moi j'ai rien contre qu'on fasse des jeux accessibles pour les gamins, etc., mais le problème c'est que on nous prend par la main.
Ah.
Et ça, c'est super pénible, parce qu'on te prend par la main toutes les 5 minutes, on te rappelle ce qu'il faut faire, on te met en rouge, tu vois, dans le texte, les éléments importants.
Ah oui.
Et ça, c'est très, 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 très...
Il n'y a pas moyen de le désactiver.
Non, non, tu peux pas. C'est un des... en gros, le jeu, il a ce défaut-là, vraiment.
Ouais.
C'est on te prend par la main en permanence. C'est très pénible, quoi. C'est fatigant, C'est, t'as envie de leur dire, sérieux les mecs, on n'est pas des abrutis, quoi. C'est,
ouais, mais d'un côté, ça peut être bien aussi si tu veux jouer avec un enfant ou je sais pas.
Ouais, pour les gamins, c'est bien. Mais c'est fait pour les gamins, de toute façon.
Voilà, faut aussi voir ça.
Ouais, je suis pas d'accord parce que bon, moi, si tu veux, moi, j'étais gamin aussi. Hein. J'ai joué à la Mega Drive et je veux dire, j'ai joué à Landstalker. Pour ceux qui connaissent Landstalker, il y avait des énigmes assez velues dedans quand même. Et j'ai fini Landstalker à l'époque, hein, et j'étais gamin. Hein.
C'est un gamin intelligent, c'est pour ça.
Ne sous-estimez pas les gamins, s'il vous plaît, ce ne sont pas non plus des abrutis complets. Oui. Surtout que le jeu est facile, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de ça à la base. Le jeu est facile. Qu'est-ce que tu vas mettre des aides supplémentaires, enfin des rappels. C'est même pas des aides, c'est des rappels. Toutes les 5 minutes. Surtout que le jeu à la base est très bavard quand même. Ça, c'est, j'avertis les gens, hein, c'est typique des Japan RPG, hein, mais. Ouais. Le jeu est très bavard déjà à la base. Alors en plus, s'il est bavard pour te rappeler qu'il faut aller faire tel truc, c'est bon quoi, stop. À un moment, ça commence à ouais. bien faire, tu vois.
Il y avait la même chose dans Golden Sun DS, qui là aussi était rendu vraiment vraiment accessible par rapport à ça. Et mais par contre, c'était possible de le désactiver. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pensé à ça.
Ouais, ils auraient dû. Je suis d'accord. Ils auraient dû mettre une option, quoi. Ouais. Une petite chose également. Il faut savoir que dans Solato Robo, il y a du contenu en ligne. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, je vous avais parlé de phases de course tout à l'heure. Alors, c'est des courses en avion, et vous allez pouvoir jouer en multijoueur dessus. Bon, c'est pas extraordinaire. Hein. En gros, ça ressemble un peu à Diddy Kong Racing, si vous voulez, en plus simplifié, quoi. C'est sympatoche, mais bon, c'est pas le cœur du jeu, quoi.
Ça se joue jusqu'à combien?
Je t'avoue que j'ai pas testé. C'est tellement sans intérêt que...
D'accord, ça se fait uniquement en ligne.
Ouais, ça se fait uniquement en ligne. Enfin, t'as des phases de course en solo, si tu veux, qui font partie des quêtes. Ouais. Mais, enfin, c'est juste, elles sont là pour la forme, quoi. Okay. Pour moi, c'était le truc, j'ai vu ça, j'ai fait, ouais, bon, en gros, ils ont mis ça parce qu'il fallait un truc en ligne, quoi. Mais, j'étais tellement pressé par le temps pour finir pour le podcast, si tu veux, que c'était pas ma priorité, quoi. Ça mérite d'être là. Et en plus, chose plus importante déjà, vous allez pouvoir télécharger des quêtes en plus. Ils ont mis en place un système de téléchargement qui va vous permettre tout simplement de télécharger des quêtes annexes supplémentaires, quoi. C'est très sympa.
Comme Dragon Quest, quoi.
Voilà. Okay. Apparemment, bon, j'ai pas trop compris comment ils allaient gérer ça. Ça va marcher que dans les premiers temps du jeu, puis après ils vont le désactiver si j'ai bien pigé le truc. Donc bon, achetez Solato Robo. Donc quoi qu'il en soit, pour terminer, l'ambiance. Bon, j'en ai déjà parlé au début, mais ce jeu, je vous assure, les décors sont absolument. Mais il y a aucun décor qui est pareil que l'autre, quoi. Les mecs ont une imagination qui me sidère, quoi. C'est j'avais pas vécu ça depuis Skies of Arcadia.
Vive la drogue.
Ouais, je pense qu'ils ont pris de la drogue. D'ailleurs, mais je parle de Skies of Arcadia, mais ce jeu m'y fait beaucoup penser. Tu me diras en jeu avec des îles volantes, forcément. Mais même il y a des lieux, genre il y a un moment, il y a un environnement où t'as des bateaux abandonnés, etc. Une ville qui est constituée que de bateaux abandonnés, en fait, qui fait un peu penser à Esperanza dans Skies of Arcadia. Enfin, il y a plein de trucs qui y font penser, mais il faut pas croire, il a aussi sa propre identité. Et il ajoute pas mal de choses à l'univers de tel concerto, quoi. Parce que en plus, bon, c'est vraiment le même univers. On croise les personnages de tel concerto dans des quêtes annexes, etc. Je pense qu'il y a vraiment des liens au niveau du scénar par rapport à tel concerto. Ils sont très fins, faut pas croire non plus que c'est très développé, mais ça explique pas mal d'éléments du scénar tel concerto. Donc vraiment un jeu à faire sur DS, pour moi un indispensable.
Une digne suite, donc.
Un jeu, je pense, qui restera dans les mémoires de ceux qui l'ont fait.
D'accord, bon, ben très bien. Alors, maintenant, on va passer à un jeu qui est disponible depuis déjà pas mal de temps. Hein. C'est pas forcément dans l'actualité, mais c'est un jeu du moment pour Mordren. Tu vas nous parler d'Alan Wake.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est pas du tout dans l'actualité. Hein. C'est sorti mi-mai 2010, donc ça fait plus d'un an déjà. Je voulais y revenir, en fait, parce que j'y joue en ce moment et... Et voilà, je voulais sauter sur l'occasion pour en parler. Alors, Alan Wake, c'est un petit peu l'Arlésienne, une des Arlésiennes du jeu vidéo, il y en a beaucoup hein, quand même. Et elle a fini par sortir, enfin le jeu a fini par sortir. Alors le jeu était annoncé en 2005 quand même, il est sorti en 2010. Donc bon, ça fait un petit moment de gestation. C'est un jeu développé par Remedy, c'est ceux qui ont fait Max Payne. Et donc pour resituer un petit peu le scénario, Alan Wake, c'est un écrivain à succès et il part dans une région qui dans une petite ville qui s'appelle Bright Falls et ça fait penser la région fait penser au Maine des États-Unis. Donc il y part pour se ressourcer et retrouver l'inspiration. Il part avec sa femme Alice dans un chalet qui s'appelle Cauldron Lake, mais là, c'est le drame. Sa femme disparaît dans des circonstances mystérieuses. Et Alan se rend compte qu'une force sombre s'empare des environs et ça s'appelle l'ombre noire. Et il va tenter de retrouver sa femme par tous les moyens. Et donc il va être confronté à l'ombre noire. L'ombre noire, en fait, qui apparaît sous différentes formes et notamment les possédés. Alors les possédés, c'est des sortes de zombies, enfin des gens possédés. C'est pas vraiment des zombies, hein. C'est des personnages en fait qui sont possédés. Entouré de ténèbres en fait et qui vous veulent du mal évidemment. Et l'ombre noire aussi s'empare d'objets et vous les envoie à la figure, par exemple des wagons de train ou elle fait tomber des arbres devant vous. Enfin bon, ça c'est l'ombre noire, c'est l'entité ennemi numéro un d'Alan Wake. Alors le gros point fort d'Alan Wake selon moi c'est son ambiance. En fait, on se sent jamais vraiment en sécurité dans ce jeu. On en discutera tout à l'heure, mais c'est un.
Oui, on va en discuter.
Ouais. C'est un mélange entre de l'aventure, enfin c'est beaucoup de l'aventure et un petit peu du survival horror. Enfin, ça, on en discutera hein, là-dessus. Donc, on n'est jamais vraiment rassuré puisque une grande partie du jeu se déroule dans la nuit noire, en pleine forêt, là où des possédés peuvent surgir d'un petit peu partout et vous cherchez des noises. Et bon, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est il y a surtout un sentiment on est mal à l'aise quoi, on est pas oppressé mais on est vraiment mal à l'aise dans
on
ce
on n'est jamais rassuré aussi. Exactement. Moi j'ai eu vraiment cette impression.
Jamais rassuré, on n'est jamais bien quoi. On se dit il y a une maison en face de moi, qu'est-ce que je fais? J'entre dedans, j'entre pas dedans, qu'est-ce qui va m'arriver? et puis surtout le vrai point fort c'est la narration du jeu. Alors selon moi, hein, qui est vraiment remarquable, c'est tout en mystère, en rebondissement. Le jeu se construit en fait en plusieurs épisodes, il y en a 6, et ça se fait vraiment comme une série. Il y a des cliffhangers, enfin du suspense, c'est vraiment bien fait. À la fin des épisodes, vous avez un entracte musical et l'épisode suivant recommence avec un résumé précédemment dans Alan Wake. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé. Et donc il y a aussi en termes de narration le système des pages de manuscrits qui sont un petit peu disséminées dans tout le jeu. Et c'est assez impossible de les louper en fait. Enfin la plupart sont difficiles à louper.
Et, ouais, on en reparlera mais je trouve que c'est pas la plus brillante idée qu'ils ont eue. Hein, mais ouais. J'en reparlerai tout à l'heure.
Alors moi ce que j'ai bien aimé en fait c'est que ces pages de manuscrits quand on les découvre et qu'on les lit évidemment, ça nous fait un système soit de retour en arrière, donc des choses qu'on a déjà vues et qui sont mises sur papier, donc avec l'écriture d'Alan Wake puisque je le rappelle c'est un écrivain, soit des moments qu'on n'a pas encore vécu et qu'on va vivre. Et ça je trouve que c'est plutôt bien, enfin c'est plutôt sympa.
Moi justement là je vais t'interrompre parce que pour moi c'est le défaut du jeu en fait ça. Parce que moi ça m'a complètement je trouve que déjà le scénario il est pas forcément extraordinaire à la base, tu vois. Mm-hmm. Enfin c'est pas ça, c'est en fait ces pages elles te spoilent des moments du jeu quoi. Pour moi c'est des spoilers en fait. Et moi je trouvais que ça gâchait complètement, moi en tout cas ça c'est mon avis personnel. Mm-hmm. Moi ça m'a complètement gâché l'expérience du jeu quoi.
T'es pas obligé de les lire.
Ouais non mais t'es pas obligé de les lire, mais le fait est qu'ils les ont mis dedans, tu vois, et qu'il y a des fois tu sais pas si c'est les retours en arrière sont intéressants par exemple, tu vois. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que tu sais pas si c'est des retours en arrière, des retours en avant. Enfin bref, moi j'avais envie, tu vois, de décrypter le scénar quand même et essayer de voir les pages, au moins les pages intéressantes en arrière, quoi. Et le souci, c'est que ça spoil, quoi. Et même par exemple, tu vois, je pense qu'il y a des scènes qui auraient pu être vachement plus angoissantes si on n'avait pas eu ces spoils-là, quoi. Enfin moi, en tout cas, moi c'est comme ça que j'ai ressenti. Ouais. Quoi. Ça m'a complètement gâché l'immersion du jeu, quoi.
Je comprends. Moi, je les ai plus vus en fait comme un moyen de te mettre encore plus mal à l'aise en fait, de te dire ça c'est ce qui va t'arriver, fais gaffe à toi, tu sais. Alors tu te dis, tu t'es pas rassuré encore plus parce que tu te dis, bah mince, il va m'arriver ça dans pas longtemps. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est plus tard? Enfin, tu vois, tu t'appréhendes le moment qui vient. C'est bah, comme ça que je l'ai vu moi.
Oui, mais moi, pour tout te dire, bon, faut dire que à la base, moi, à la WEC, c'est pas un jeu qui m'a oppressé, quoi. Alors, c'est peut-être à force de jouer à, je sais pas, c'est peut-être à force de jouer à Silent Hill, tu vois.
Oui, oui, oui.
Ou,
voilà.
À des jeux comme Amnesia, enfin bref, des trucs que tu pisses dans ton ouais, froc.
C'est ça.
Mais moi, à la base, c'est pas un jeu qui m'oppresse, tu vois.
Ouais, enfin, la WEC est bien plus profond que ça. C'est pas juste, ouais, on va faire un jeu pour faire peur aux gens. Là, il y a un véritable travail d'ambiance.
Même, on parle d'oppression, mais moi, ce jeu ne m'a pas oppressé. Je suis désolé, moi ce jeu, j'ai avancé en ligne droite, les machins, j'avais pas du tout d'angoisse, j'avançais tranquillement, allez, une grenade alluminescente, on avance tranquille, c'était la fête quoi, c'est une balade au milieu de la forêt, c'est cool, oui, l'ambiance géniale, je suis d'accord, l'ambiance est excellente, mais je n'ai pas été oppressé par ce jeu.
Voilà, alors c'est, et là tu touches le point faible du jeu, qui est l'air de rien son gameplay. En fait, le jeu se construit sur autour d'un seul axe, c'est-à-dire la lumière. Et forcément, vu que vous combattez des ténèbres, la meilleure arme que vous avez.
C'est pas une mauvaise idée, hein, de base.
Oui, mais justement, je vais développer un petit peu plus.
C'est sous-exploité, c'est ça.
C'est ça. En gros, les possédés sont protégés par un voile d'ombre. Donc, il va falloir le percer à l'aide de toutes sources de lumière que vous avez. Pour pouvoir ensuite vous en débarrasser avec une arme traditionnelle. Donc ça peut être un fusil à pompe, ça peut être juste un petit flingue qui va être votre ami pendant toute la...
D'ailleurs, il y a quasiment rien comme arme, ce qui est très dommage.
C'est vrai, je suis d'accord. Et donc, plus la source de lumière est puissante, plus vite le voile d'ombre va s'évaporer. Donc ça peut être simplement une lampe torche, qui est un petit peu l'emblème d'Alan Wake en fait. Ça peut être un feu à main, ça peut être une grenade incapacitante, qui va faire littéralement exploser un possédé. Ça peut être un lance-fusée aussi. Là aussi, le possédé va exploser en face de vous. Alors c'est à vous de voir comment vous utilisez ces sources de lumière là. Donc il faut jouer pour mieux, enfin il faut en jouer en fait pour mieux s'en sortir. Alors c'est et le problème en fait c'est que ça se renouvelle pas assez. C'est que pendant les à peu près 8 heures de jeu, enfin un truc dans ce genre là, ça va être toujours les mêmes mécanismes de jeu. Et ce qui fait que en normal En mode normal, vous allez jamais lutter en fait. Enfin, finalement.
Ça se fait chier. Je suis désolé de le dire, mais.
Ouais, non, mais c'est t'as pas tout à fait tort en fait. C'est à force, on devient habitué à certaines situations. On sait que là, il y a dans le level design, il y a une zone qui est un petit peu plus grande. Tu te dis, bah ouais, forcément, là va y avoir un combat. Donc je prépare mon fusil à pompe, je prépare ma lampe torche, enfin voilà. Et le truc en fait, c'est que à force, on s'attend, enfin, on sait ce qui va arriver, et ça devient répétitif. Et ça, c'est un petit peu dommage pour un jeu qui mise sur l'ambiance, de décrocher un petit peu sur le gameplay, qui est tout le temps un petit peu la même chose. Donc ça c'est vraiment dommage. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi au niveau du gameplay.
Ouais, le gameplay, c'est vrai que moi le gameplay j'ai trouvé bon. En fait, pour moi c'est du TPS de base pour moi. Mm-hmm. Le gameplay, c'est du TPS de base auquel ils ont rajouté.
Non mais il est pauvre.
L'élément lumière quoi, c'est le problème quoi. C'est en ce temps il y a eu d'autres jeux. Je demande pas faire du Gears of War non plus qu'on soit d'accord. Mm-hmm. Hein. Mais je pense qu'il y aurait eu moyen de varier le gameplay avec les lumières. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire des trucs, tu vois. Mais ça n'a pas été exploité quoi.
Alors moi je vais vous le dire franchement, autant j'adore ce jeu. Autant au niveau du gameplay, c'est simpliste, c'est répétitif, c'est pas recherché, quoi. Ils sont limités à cette idée de lumière, mais après, même au niveau des armes, il n'y a pas de folie. On a quelques armes au niveau de la lumière, mais sinon, on a quoi? On a 2-3 armes, après pareil, 4-5 types de lumière. Et après, faut pas chercher, ce sera ça tout le long du jeu. Vraiment, s'il n'y avait pas le scénario, l'ambiance et tout... Le jeu en lui-même, pour moi, il vaut rien sans ça. Hein. C'est,
Oui, c'est simple. Il est vraiment sauvé par son ambiance, Alan Wake.
Bah,
Alan Wake, sans l'ambiance, c'est rien du tout. Hein.
Autant c'est, tu prends... autant tu prends pas mal de FPS. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont dit... Bon, les mecs, on a fait un super FPS. Maintenant, il faut qu'on trouve un prétexte. Ouais, parce qu'on tue des milliers de gens. Il faudrait peut-être trouver... pourquoi bon, on va dire qu'il y a un méchant russe et voilà, ben là j'ai eu l'impression que c'était l'inverse. Ils se sont dit bon ben les mecs on a un super scénario mais faut pas oublier on fait pas une série ni un film donc faut peut-être faire un petit truc au niveau du gameplay. Bon allez on va faire ça, ça passe. C'est vraiment
après,
l'impression que j'ai.
Au niveau de l'ambiance, moi j'aimerais apporter quelques nuances quand même parce que je trouve que tous les chapitres ne sont pas égaux.
Ouais.
Au niveau de l'ambiance, par exemple le chapitre dans l'Asie, je sais plus lequel c'est
où ça
le chapitre dans l'espèce d'Asie, enfin c'est
oui.
pas un Asie,
ah
mais,
oui dans l'Asie, oui oui
oui oui
je suis d'accord,
dans l'hôpital psychiatrique on va
ouais.
dire
ouais.
Autant celui-là tu vois j'ai trouvé génial. Il y a aussi tout le passage là où on joue
ouais,
on
pas trop, hein,
l'espèce, enfin, ah ouais, comment pas spoiler ça quand on est à la ferme là, vous savez.
Ouais, ça c'est génial.
Personne.
Ce passage-là, c'est l'asile, ce passage-là, autant j'ai trouvé.
Et c'est
génial.
Le même chapitre d'ailleurs.
Ouais, bah voilà, bon, donc c'est ça. C'est le chapitre qui m'a marqué dans le jeu.
Mm.
Le chapitre précédent aussi, avec la vieille là. Enfin, vous voyez de quelle vieille
oui,
je veux
oui.
parler. Celui-là, j'ai trouvé pas trop mal aussi.
Mm.
Mais les autres, par contre, alors le dernier chapitre, il m'a déçu, mais tellement déçu que voilà. Enfin, faut dire que j'ai tellement été déçu par déjà, j'ai trouvé très répétitif le dernier chapitre et en plus même au niveau de l'ambiance, c'était.
Pour moi, tout reste dans le
voilà,
haut du
quoi.
Panier quand même. Moi,
Et le début, j'ai trouvé assez mou aussi au niveau de l'ambiance. Bon, ça m'a pas.
Ouais. C'est vrai qu'ils prennent du temps à mettre la chose en place.
Pour moi, c'est ce qui fait sa force d'un côté. Hein.
Ouais.
Le temps, justement, au début, moi, j'ai vraiment aimé toute cette période un peu floue, même, j'ai envie de dire, inutile au début. Rien qu'on arrive en Bright Falls et tout, vraiment, toute cette période qui est finalement assez longue, j'ai vraiment trouvé sympa.
Ouais, ouais c'est vrai que tu prends tes marques, enfin, t'apprends à prendre tes marques, et à la fin de l'épisode, quand t'as tout qui s'effondre, enfin, tout ce petit monde que t'avais créé pendant une demi-heure, qui s'effondre, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin, j'ai trouvé ça assez fort en termes de mise en place. C'est vrai qu'il y a des défauts dans Alan Wake, c'est clair et net. Après, c'est vraiment votre perception du jeu. Moi, je l'ai trouvé vraiment prenant parce que je suis trop heureux pour faire les Silent Hill ou les Resident Evil.
Mais même, je pense...
Resident Evil n'est plus un jeu d'horreur. Donc
oui,
peux...
non,
oui.
Les anciens. Les anciens. Et donc ça c'est vrai que, bon, moi, j'ai été pris par le jeu parce que je suis pas très connaisseur du genre survival horror. Et il faut bien le dire qu'Alan Wake n'est pas tant un survival horror que ça.
Oui, c'est plus un jeu d'ambiance.
Mais qu'on soit clair, hein, moi, Alan Wake, je ne lui reproche pas de ne pas être un survival horror. J'ai simplement constaté que le fait que moi, ce jeu ne m'avait pas fait peur.
Ouais.
Ou en tout cas, qu'il ne m'avait pas angoissé, par exemple, comme le jeu Monolith, là, comme il s'appelle, où il y a un tueur en série, là. Condemned, voilà.
Ah, oui.
Un Condemned, tu vois, par exemple, c'est pas un jeu qui fait spécialement peur.
Mm-hmm.
Mais c'est un jeu qui m'a angoissé parce qu'il y avait un putain de travail au niveau des bruitages, etc. T'avais l'impression d'entendre les ennemis te souffler sur la nuque, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc. T'entends le souffle du personnage et tout. Enfin, c'était vraiment
ouais.
Pas flippant, mais vraiment t'es pas tranquille, tu vois. Et Alan Wake ne m'a pas fait ça, mais à la limite je n'en tiens pas grief. Moi, là où je lui fais grief, c'est que vraiment au niveau du scénario, j'ai pas été convaincu. Au niveau de l'ambiance, j'ai trouvé ça très inégal. Enfin bref, c'est tout un tas de reproches. Puis au niveau du gameplay aussi, quoi, finalement aussi. Et j'ai été assez voilà quoi. J'en attendais beaucoup plus à ce niveau-là.
De toute façon, pour moi déjà, Alan Wake, c'est un jeu qui est un peu à caser dans la case expérience plus que jeu à proprement parler, comme Heavy Rain. Stop, on ne parlera pas d'Heavy Rain, je te vois venir, Pierrot. ça fait partie de ces jeux comme ça. C'est assez difficile de comparer avec d'autres jeux qui se rapprochent plus ou moins. Parce que finalement, moi, Alan Wake, je le définirais à peine comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo, pourquoi ? Parce qu'on contrôle un personnage et tout, mais finalement, c'est une expérience qui quasiment, je saurais même pas comment dire ça, mais pour moi c'est à la limite entre le jeu vidéo et une série ou quelque chose d'autre, puisque tout l'intérêt réside dans l'ambiance et que le gameplay est vraiment minimaliste, quoi.
Mais justement, c'est peut-être ça le problème. C'est moi, je veux bien que il y a quand même moyen. Je suis désolé, tu regardes chez nous, voilà, je vais prendre un exemple basique. Mm-hmm. Chez nous, c'est une expérience aussi, tu vois.
Ouais.
Sauf que à côté, t'as le gameplay de Virtua Fighter.
Ah oui, non,
ça,
mais
ça change tout, tu vois.
C'est pas du tout dans le même axe. Shenmue, par exemple, je suis désolé, au niveau de l'ambiance, de la narration, ça se place pas du tout au même niveau. C'est pas la même ambition. C'est pas le même but.
Moi, j'ai trouvé l'ambiance de Shenmue. Enfin, bon, on va pas débattre là-dessus, mais moi, l'ambiance de Shenmue m'a carrément plus envoûté. C'est un voyage initiatique en Asie qui est. Enfin, moi, c'est une expérience au moins aussi forte que la même pour moi Shenmue. Hein. Je suis désolé. Hein.
Oui, et, non, mais je veux dire, ça se passe pas au même endroit parce qu'après, il y a. Comment dire ça, il y a ambiance et ambiance.
C'est pas la même recherche au niveau la narration, etc. C'est pas la même chose, quoi. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que chez nous aussi, c'est un jeu qui se base sur l'ambiance, pas sur la même ambiance, je suis d'accord. Mais derrière, t'as un gameplay en béton armé. Et c'est pour ça que c'est un jeu culte. C'est pour ça que c'est un jeu culte chez nous. C'est pour ça que des jeux comme, bon, Heavy Rain, moi, très honnêtement, t'as l'air de dire que je troll systématiquement sur Heavy Rain, mais c'est pas vrai. Je pense que, surtout, d'autant plus, j'y ai pas joué, donc c'est pas moi qui vais troller là-dessus. mais Heavy Rain, je pense que si Heavy Rain a créé cette polémique-là, parce que moi, c'est, à chaque fois que je parle d'Heavy Rain, c'est pour parler de cette polémique qu'il y a eu sur le jeu, je pense que c'est parce que les joueurs ont de vrais griefs vis-à-vis du gameplay. Et pourquoi un jeu comme chez nous a entre guillemets fait l'unanimité parce que il a fait l'unanimité en Occident parce que je vous rappelle qu'au Japon le jeu s'est fait casser. Mais bon, ça c'est.
Et l'unanimité critique au niveau du succès commercial, c'est une toute autre histoire quand même.
Il est million seller quand même.
Mais par rapport au budget qu'il y a eu derrière.
Ouais. Par rapport au budget, on est d'accord. Mais voilà, Shenmue, c'est un jeu culte parce qu'il y a un gameplay en béton armé derrière. Et je pense que l'erreur de Remedy, pour revenir sur Alan Wake, ça a été vraiment... franchement, si le gameplay avait été en béton armé, mais je lui aurais tout pardonné sur l'ambiance, tu vois. Parce que moi, je peux tout pardonner à un jeu sur l'ambiance, sur le scénario, tu peux mettre un nanar pas possible, enfin, un truc totalement bidon. J'en ai rien à foutre parce que moi, je suis un joueur, ce qui m'intéresse... En premier lieu, tu vois, c'est le gameplay. Même sur un jeu de rôle japonais, tu vois, si le gameplay est, c'est vrai que je gère sur les jeux de rôle japonais, en général, je cherche des expériences narratives, c'est vrai. Mais si le gameplay est en béton armé derrière, pourquoi je vais kiffer le jeu quand même, tu vois, parce que je suis là pour jouer à la base. Et je pense que voilà, pour terminer là-dessus, il fallait vraiment, ils auraient dû plus bosser sur le gameplay, quoi. Quitte à compenser, tu vois, quelque chose au niveau de l'ambiance, fallait vraiment faire quelque chose sur le gameplay.
Donc finalement, deux, trois mots, Mordren, oui ou non pour Alan Wake?
Ah, mais clairement, oui. Enfin, personnellement.
Stop, moi, t'as dépassé la limite.
Voilà, c'est ça. Bon, voilà, non, trois mots. Clairement, oui.
Non, mais, d'accord.
Vraiment, le scénario m'a plus convaincu que le tyran, en fait. Et moi pour un scénario, c'est un petit peu le contraire de le tyran. Moi pour un scénario, je dis oui à tout quoi, même avec un gameplay de merde, je suis capable d'y jouer et d'adorer.
Donc, je rajouterais juste une chose, clairement oui, ça fait deux mots.
Certes. merci de le faire noter, Mikael. mais Alan Wake, c'est le gameplay est pas pourri, hein. Il faut pas dire ça non plus.
Simpliste.
Non, il est pas pourri, il est répétitif.
C'est ça. Simpliste et répétitif. Voilà, c'est ça le gameplay du jeu. Après, moi, c'est vrai que j'ai pris mon pied, quoi. Le jeu m'a vraiment pris, donc voilà, quoi. C'est y a pas photo. Donc je dis franchement un jeu à tester.
D'accord.
Voilà.
Donc on passe maintenant au point culture, et oui, car il n'y a pas que le jeu vidéo. On va d'abord parler d'un film que Mordren a adoré, un film qui place forcément dans son top 5 de tous les temps. Il a des posters partout dans son appartement, il est fan. Il s'agit de Transformers 3 que tu as été voir au moins 36 fois tellement t'as kiffé.
Oui, clairement. J'ai d'ailleurs précommandé 50 fois le DVD pour l'offrir à toute ma famille.
Et le Blu-ray en plus.
Exactement. Ouais. Donc, Transformers, on ne le présente plus. Hein. Encore un Transformers, c'est le troisième. La face cachée de la lune, ça s'appelle cette fois. Donc, j'ai envie de dire en même temps, Michael Bay n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. La licence est tellement juteuse. Des centaines de millions de dollars au box-office mondial à chaque fois. Hein. Donc c'est pour resituer un petit peu le succès. Transformers, c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une licence de jouets Et donc c'est chez Hasbro qui fabrique des figurines de robots qui peuvent se transformer en voiture ou autre véhicule. Et ça c'est bien.
Bah là, quand j'étais petit, moi j'adorais.
Ouais, non,
c'est
vrai que
ça a été mon enfance pour moi.
Moi j'adore Transformers. Enfin l'objet. La licence avait déjà eu des adaptations en série animée en fait. Et depuis 2007, on a le droit au film. Donc il y en a eu 3 maintenant.
Logique.
Très logiquement. Et donc c'est pas forcément des monuments de cinéma hein, bien sûr, mais à chaque fois c'est le gros carton de l'été. Donc évidemment le Transformers 3 va aussi faire ses centaines de millions de dollars au box office. Bon, alors juste pour faire le scénario, Transformers 3 reprend la suite directe du 2 évidemment, avec un début en mode uchronie. Alors vous savez ce que c'est que l'uchronie?
C'est qu'on change un événement historique pour offrir une autre version du passé, il me semble.
Exactement. Donc,
point culture oblige, tu vois. C'est...
Merci beaucoup, Mikael. Au moins, on aura appris quelque chose. Donc, ici, l'Uchronie, en fait, c'est l'idée que la conquête spatiale entre l'Union soviétique et les États-Unis des années 60 a été organisée dans le seul but de mettre la main sur un vaisseau spatial qui s'est écrasé sur la Lune. D'accord? Et donc tout ça, évidemment le vaisseau spatial, c'est un vaisseau spatial des Autobots. Alors les Autobots, c'est les gentils robots dans Transformers.
Et tu nous dis d'accord parce que c'est tellement compliqué que t'as peur qu'on suive pas.
Vous avez suivi ou pas?
Ouais.
Ok.
C'est passionnant.
N'est-ce pas? Bon, et franchement, ça c'est plutôt intéressant hein, dans le
oui,
scénario.
Oui, oui, non, on troll, mais oui. Moi, ça m'a l'air ça. Bon. Oui.
Et ça dure un quart d'heure dans le film, voilà. Et ça c'est dit. Sachant que le film dure 2h30, hein, je vous préviens.
On peut dire que les marketeurs font très bien leur boulot, encore une fois. Hein.
Bah oui, en termes de bande-annonce, tu vois que ça, hein, l'Uchronie. Hein. Et oui. Tu te dis, ouais, ça peut être sympa en fait cette fois. Mais en fait, non. Tout ça, ça permet juste de ramener les Autobots, les gentils et les Decepticons, qui sont les méchants, évidemment, tout ça sur Terre pour faire une énorme bataille, puisque les Decepticons ont envahi la Terre. Bon, génial. Et donc, c'est les Autobots et Optimus Prime qui vont sauver la Terre, évidemment. Donc,
oh,
voilà, ça c'est Transformers 3. Et donc en termes de scénario, bon, je pense qu'on repassera. Et donc en gros, c'est vraiment le prétexte à faire des effets spéciaux de partout.
Alors tu m'as répété, il durait combien de temps le film?
2h30.
Ah oui, quand même, 2h30 pour un film d'action. Moi, j'ai rien contre les films d'action, tu vois, mais 2h30,
voilà. Et ça,
c'est chaud, quoi. C'est
le problème que j'ai toujours, en fait, détesté avec les Transformers, c'est que Michael Bay fait toujours du 2h30 avec ses Transformers. Et 2h30, c'est beaucoup, beaucoup trop pour un film d'action. Là, en fait, en termes de ratio, on a 1h30, donc la première heure et demie qui est fait pour des scènes de gaminerie, mettre en place le pseudo scénario et la dernière heure, c'est juste le bouquet final. T'as toute la bataille qui se met dans la dernière heure.
Alors je vais me faire l'avocat du diable, mais moi je n'ai vu que le premier opus et j'aime beaucoup les films d'action et je trouvais qu'il faisait bien son boulot malgré tout. Il n'y avait pas énormément de scénarios, mais il y avait de beaux effets spéciaux. C'était un peu long, mais ça se laissait regarder. Bref, il faisait assez bien le boulot. Donc, pour des gens...
Boulon, c'est bien.
Oui, bah, c'est même pas fait exprès, en plus. C'est pour des consommateurs qui sont pas trop exigeants comme moi et qui aiment bien les films d'action comme ça. À la limite, à la location de DVD, ça coûte quoi? 3 euros. Le 3, il est au-dessus des précédents opus? Alors, il est en dessous? Il est au même niveau?
Pour revenir sur le fait de la longueur, toi, ça t'a pas gêné, mais...
Si, ça m'a gêné quand même. Hein, ça...
Tu t'imagines un Transformers en 1h30, t'aurais juste une demi-heure de gaminerie et une heure de finale, ça serait génial. Tu vois, c'est...
Mais non, mais je dis pas que le film est parfait, au contraire. Moi, je te dis, je me suis un peu fait chier à la fin, mais pour un film d'action, il faisait son boulot, il était pas médiocre, il était plutôt bon. Pas de là acheter le DVD, mais à la location, c'était selon moi, une bonne affaire.
Alors,
le 3, est-ce qu'il se place, pas de là aller au cinéma, mais une location, par exemple?
Ouais, si vous avez une soirée pizza de prévue, ouais, il y a pas de souci. Mais vous regardez pas la première heure et demie.
D'accord.
Non, mais c'est pas ça. En fait, ce qui est vraiment gênant, c'est que pendant une heure et demie, tu te fais chier. Et pendant une heure après, tu te dis, ah, mais quand est-ce que ça finit? Parce que j'en ai marre, là. En fait. C'est vraiment ça. Non, mais là, je suis un peu
sévère. Un peu comme le podcast.
Là, je suis sévère, c'est vrai. Mais c'est que, il y a un vrai problème de rythme, en fait. C'est que, ils sont toujours trop longs, les Transformers.
Donc finalement, tu le conseilles pas.
Mais, en tant que film d'action décérébré, je vous le conseille, mais allez-y, hein, franchement, c'est le film d'action de l'été, c'est sûr et certain. Après, si vous voulez un film d'action qui se tient un petit peu plus, enfin qui, il y a des films d'action qui ont plus de rythme, qui sont plus intéressants que ça, quoi. En termes d'effets spéciaux, c'est sûr que c'est super bien Transformers. Après, bon, moi j'ai eu un souci avec la 3D, donc je peux pas vous dire si c'est bien fait ou pas. Moi j'ai eu des bons échos, moi je l'ai pas trouvé bien. Donc bon, je vais m'arrêter là. Je le conseille pour les gens qui veulent un film d'action bas du front, enfin de l'action quoi, pur. C'est, je vous le conseille, c'est sûr. Après, si vous êtes un petit peu plus fine bouche, fan de films d'action et enfin avec voilà, si vous avez des attentes, allez voir autre chose quand même. Voilà.
D'accord, donc ouais, finalement, c'est pas un grand conseil de ta part. Donc on va maintenant parler d'une série qui me tient beaucoup à cœur, je sais que c'est aussi votre cas. On va parler de Dr. House. Alors qu'est-ce que c'est Dr. House ? Eh bien, c'est une série qui met en place plusieurs personnages, et parmi eux, on compte le hautement charismatique Gregory House. Alors, qui est ce personnage ? Eh bien, c'est le protagoniste principal de l'histoire, excusez-moi. Qui est-ce ? Eh bien, c'est un médecin qui, suite à un accident de la jambe, on va pas tout détailler, souffre énormément, et pour ça, il est devenu accro à la Vicodine pour calmer sa douleur. Et on va découvrir ce personnage à travers maintenant 7 saisons. Un personnage qui est cynique, qui est charismatique, qui est un peu méchant, c'est ce qui plaira dans ce personnage, mais vraiment il a une vraie identité. C'est un personnage qui est vachement profond.
Mais non, il est pas méchant, il est juste du franc-parler.
Oui, on va dire ça comme ça, mais il est quand même un peu, ouais.
Cynique.
Oui, alors ce qui est assez sympa, c'est que vraiment ce personnage, je trouve qu'il donne une petite touche de piment à cette série, parce que sinon c'est une série médicale classique, j'ai envie de dire. À chaque épisode, on a un nouveau cas. À chaque fois, c'est oh my god, il trouve des trucs incroyables au mec. Souvent, c'est assez cohérent. Moi, je connais quelqu'un qui est en médecine, il m'a dit souvent ça se tient. Il y a quand même pas mal de trucs assez gros, mais c'est assez cohérent. Mais sinon, on a toujours l'histoire de la personne qui est malade. On apprend plus sur son passé, sur les causes de l'accident, les relations qu'elle a avec ses proches. Et d'un autre côté, on a toute l'histoire qui se déroule toujours au fil des épisodes, qui continue au fil des saisons entre les différents médecins de l'hôpital. C'est vraiment assez sympa, cette série. Mordrem, tiens, toi qui la regardes beaucoup.
Je vous dis, juste faites gaffe, hein, la manière dont tu en parles, on pourrait croire que ça ressemble à Grey's Anatomy.
Oui,
je dis que Dr. House, c'est pas si loin, c'est juste qu'il y a House qui change, franchement. Hein.
Ouais, alors moi, Grey's Anatomy et Dr. House, c'est vraiment pas la même chose.
Oui, non, mais je veux dire, c'est le même principe. Je veux dire, ça suit le.
Non, dans Dr. House, t'as tout un aspect enquête dont je me souviens pas qu'il y ait dans Grey's Anatomy, hein. Mais
Non, mais je veux dire, t'as quand même le série type hôpital. J'ai envie de dire, t'as toujours, ça se déroule toujours en fait avec deux histoires en parallèle, l'histoire du patient. Qu'on apprend son histoire, après l'histoire, comment il se fait soigner, et la grande histoire de tous les protagonistes, en fait.
C'est ça.
Voilà. C'est une structure qu'on trouve dans toutes les séries.
Sauf que tu y ajoutes les personnages complètement barrés. D'ailleurs, il n'y a pas que Dr. House.
Ah oui, mais donc.
Tous les persos ont
son mais vaut mieux pas trop s'attarder dessus, parce que moi, je suis rendu à la saison 7, honnêtement. Par rapport à la saison 1, il y a beaucoup de personnages qui vont changer. Je ne vais pas dire qui, je ne vais pas dire pourquoi.
Encore
mais l'équipe, oui. Faudrait pas spoiler parce que mais l'équipe change toujours, mais je trouve que justement contrairement à pas mal de séries qui se cassent la gueule sur la longueur, je trouve que les nouveaux protagonistes ont aussi leur charisme et c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc Mordrem, si tu veux en parler.
Ouais, alors moi en fait j'ai toujours été allergique à Grey's Anatomy et aux séries médicales en général en fait.
Moi aussi au passage.
J'appuie.
et c'est vrai que Dr. House, mais ça a été un bol d'air dans le monde des séries médicales en fait. Tout simplement parce que il y a des personnages qui sont là, enfin des vrais personnages super fouillés avec des vraies personnalités qu'on voit enfin pas souvent dans les séries. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le cachet de la série. C'est ce qui fait que la série marche pour moi, en fait. C'est ces personnages qui sont tranchés. Enfin, le Dr House, c'est l'air de rien, c'est un gamin, en fait. Hein.
C'est un grand gamin.
Ouais.
Et en fait, son but, c'est de faire chier le monde, mais le plus possible. Mais il est plus profond que ça, en fait, hein, l'air de rien.
C'est vraiment un personnage qui est torturé. Je te le dis, toi, t'as pas encore vu les dernières saisons, mais on en apprend quand même pas mal sur le personnage, et franchement, il y a vraiment des situations qui sont intéressantes et qui prouvent que, moi, j'avais vu beaucoup de personnes qui disaient, ouais, mais Doctor House, c'est une série populaire, ça vole assez bas, mais non, mine de rien, il y a quand même, c'est des thèmes qui sont toujours assez sérieux, thème de l'addiction qui revient tout le long.
Moi, je suis désolé, effectivement, par rapport à d'autres séries du genre, tu vois, je trouve au contraire que les personnages sont vachement fouillés, quoi. Je vais vous le dire, les autres séries, mais jamais je me suis attaché aux personnages, sauf peut-être les séries un peu marrantes, genre Scrubs, tu vois, qui sont assez drôles, mais sinon, je trouve, j'avais pas vu jusqu'à maintenant des personnages aussi profonds dans une série, tu vois. Parce que on pourrait croire comme ça, quoi, c'est le mec méchant de base et tout. Mais il est vachement plus recherché que ça. Ses relations avec son pote, son meilleur ami, donc Wilson, elles sont vachement James intéressantes. C'est un personnage très développé, quoi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est un personnage. T'as l'impression que il y a plein de choses qu'il dit pas, en fait. Il est beaucoup plus sentimental qu'il en a l'air, quoi. C'est pas juste un gros salopard qui n'a aucun sentiment.
Et ce qui est très fort avec cette série, c'est que moi j'ai marqué qu'il y a pas mal de passages, je ne dirais pas lesquels pour pas spoiler, parce que je pense notamment à un passage qui est le gros spoil, j'ai envie de dire, c'est tellement important que ça spoilerait toute la série. Un passage où en fait Dr House a une hallucination, et ça on croit que... En fait, on est pris aussi dans l'hallucination, et c'est tourné de telle manière que quand Dr House apprend qu'il a rêvé ce qui est arrivé, nous on l'apprend en même temps, et franchement, c'est une claque. Il y a pas mal de procédés narratifs comme ça qui, mine de rien, sont vraiment développés. Après, il y a des épisodes, moi je m'en souviens, à niveau originalité, il y a un épisode où il y a un patient qui est complètement paralysé, il peut que bouger les yeux. Et en fait, tout l'épisode, on le voit à travers les yeux de cette personne et on entend ses commentaires.
Celui-là est vraiment génial.
Ça change à fond. Il y aura toujours une petite originalité comme ça qui fera que vous vous accrochez tout le temps à cette série. Il y a tout le temps des situations qui évoluent. C'est vraiment pas bateau. Et quel humour. Moi, franchement, je me suis jamais autant marré devant une série que...
L'humour noir est juste...
C'est le personnage de Dr House. Les autres sont très bons, mais Dr House, il est franchement... Pour moi, c'est le personnage le plus charismatique que j'ai vu depuis des années. Hein. Que dire du jeu d'acteur de Hugh Laurie avec les expressions du personnage. Et même, c'est une série... Oui, Mordred.
Ouais, il y a un truc qui est à noter, en plus, c'est que la semaine dernière, on parlait des VF... Dr House, c'est vrai qu'on a une VF qui est quand même très très bonne.
Parce que moi, je t'avoue, je regarde les derniers épisodes en streaming. J'achèterai les DVD quand ils seront sortis. Mais là, je les regarde en streaming parce que j'ai la flemme d'attendre la sortie des DVD. Et faut avouer que je suis arrivé à un point, d'habitude je regarde en VF, je suis arrivé à un point où les VF sont plus disponibles. Alors je suis passé en voix anglaise. Et c'est là que je me dis que les voix anglaises, elles sont très bonnes, forcément, c'est leur vraie voix. Mais les voix françaises, elles ont vraiment rien à se reprocher. Hein. Elles sont vraiment impeccables. Pour vous dire, moi, je sais pas si c'est que j'ai plus écouté la VF que la VO, ou le fait que l'anglais soit pas ma langue natale, même si je parle plutôt bien anglais, c'est pas ma langue natale. Mais je trouve vraiment que le doubleur français de House est bien plus expressif que le jeu d'origine de Hugh Laurie. Hein.
Alors bon, ça c'est
personnel.
C'est très personnel, hein. Mais c'est vrai que vous flagellez pas si vous allez regarder la VF de Dr House, parce qu'elle est vraiment bien. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Pour une fois, j'ai envie de dire. Donc ça c'est vraiment cool.
Donc finalement, une très bonne série qu'on peut que vous conseiller. C'est une série qui a fait tout, cette série. Franchement, elle met la larme à l'œil, elle fait rire, elle fait réfléchir sur des thèmes intéressants. Oui, il y aura toujours un épisode où vous vous sentirez concerné personnellement par l'histoire des personnages. C'est aussi quelque chose qui est très fort, ça. Donc voilà, on va conclure après cette présentation de la série Doctor House. J'espère que ce podcast vous aura plu malgré l'effectif réduit. Je vous dis à bientôt pour le podcast 14 avec plus de membres, je l'espère. On a eu une panne générale de micro, enfin bref, on vous passera les détails alléchants. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec toute l'équipe de Game Info et salut.
Salut.
Salut.